Emmanuel Berle, intellectuel raffiné de l'avant-guerre, est l'auteur de ces deux formules écrites pour Pétain qui, avec l'entrevue de Montoir, la chanson « Maréchal, nous voilà » et la rafle du Veldiv, sont tout ce dont on se souvient généralement de Vichy. La terre, elle ne ment pas et je hais ces mensonges qui nous ont fait tellement de mal. Le fait que Berle soit juif, à défaut de l'excuser, donne à cela l'aspect malaisant d'un bon gag et c'est en général ce que l'on retient de lui sur les emballages d'apéricubes ou dans les questions des grosses têtes. Son histoire de l'Europe en trois tomes intriguait néanmoins, d'autant que la légende disait qu'il avait écrit le premier, rattrapé par sa judéité ou puni pour son dandysme, caché quelque part en Corrèze et privé de sa bibliothèque entièrement de mémoire. Et c'est un livre prodigieux. Et Emmanuel Berle est doté de quelque chose de tellement rare que j'en viens même à me demander si la chose n'est pas aujourd'hui perdue, une profonde intelligence historique. On m'opposera que soutenir Pétain plutôt que De Gaulle à l'été 40 témoigne plutôt du contraire, mais j'y reviendrai. Le premier tome de l'histoire de l'Europe de Berle est sous-titré d'Attila à Tamerlan, et c'est avec un délice cruel qu'on suit les mésaventures de l'idée impériale en Europe. Suavé, Marie Magno, toutes les catastrophes, tous les sièges de Rome et de Bagdad, toutes les estrades bâties avec des crânes d'ennemis vaincus et égorgés, apparaissent presque délectables, tandis que l'Europe s'est résolument lancée dans son pire holocauste. Berle retrouve là quelque chose que je croyais perdu depuis Thucydide et Tacite, depuis la fin des grandes histoires antiques, un calme délirant au milieu de la tempête, une froideur bizarrement salutaire, une forme d'économie dans le récit, un surprenant classicisme. Jamais il ne considère ainsi sérieusement l'existence de causes supérieures à celles que les agents historiques sont susceptibles de se formuler et que l'historien peut retrouver intactes par reconstitution rationnelle, position qui semblerait presque réactionnaire au regard de l'école des annales, si elle ne laissait pas, parfois, la place à de saisissantes intuitions globales. On sent alors l'écrivain percé sous l'historien, comme quand il développe cette théorie aussi simple que géniale sur la triple origine de l'Europe, fermeture de la mer commune au sud par le triomphe facile de l'islam, et abandon consécutif de l'idée de restauration impériale, réouverture dans l'Atlantique Nord d'une mer commune, assèchement, enfin, par l'arrivée des Russes sur leur côte pacifique, du grand réservoir belliqueux de la steppe, de cette hypothèque nomade qui vint à bout de presque tous les empires occidentaux et orientaux. L'histoire secrète du continent eurasiatique semble écrite pour Berle, dans un dialecte turco-mongol oublié, et il n'est jamais meilleur que quand il se fait le chroniqueur de ces barbaries oubliées, et ce, sans commentaire idiot jamais sur le mode contemporain de « autre temps, autre mœurs » ou « du plus jamais ça ». Il n'y a pas de leçon de l'histoire chez cet historien suprêmement calme, qui ne succombe jamais au plaisir si facile de l'imprécation, ou plutôt si, cette leçon existe, et c'est l'histoire elle-même, l'histoire qu'elle s'enseigne, telle qu'elle s'enseigne à elle-même les événements du passé, pour qu'ils interagissent avec le présent. Il y a chez Berle comme un émerveillement spinoziste pour l'immanence des choses. Ainsi, son chef-d'œuvre est peut-être la fin de la Troisième République, chronique par quelqu'un qui en connaissait personnellement tous les acteurs, du suicide collectif, d'une république ou d'une nation au début de l'été 1940. Et la chose paraît à ce point inexorable à Berle, plus de 20 ans plus tard, qu'il se permet même ce qui pourrait paraître une provocation, mais qui est plutôt une acceptation personnelle du tragique historique. Berle, l'un des esprits les plus intelligents de sa génération, admet soudain l'éternité de sa bêtise quand il reconnaît que si Pétain ressuscitait demain le vainqueur de Verdun, jouissant d'un tel prestige sur lui, il le suivrait encore aveuglément. Étonnante leçon de pessimisme. C'est en lisant ces pages implacables et irrésistibles que j'ai réalisé ce que notre époque de grande après-guerre avait eu de follement messianique. Nous nous sommes sincèrement crus guéris du tragique de l'histoire. Nous avons été le peuple premier de la théologie kantienne, de la téléologie kantienne. Et alors que la montée de l'extrême droite semble un phénomène impossible à endiguer, j'ai été pris, en lisant Berle, d'une bouffée d'optimisme mauvais. Il existe bien une technique pour rabaisser brutalement l'extrême droite à son niveau d'inoffensivité résiduelle. Une technique très bien éprouvée par histoire, la guerre mondiale.